Donc, comme on l'avait évoqué, on va travailler donc sur le stoïcisme à partir d'un texte précis. Et le problème, c'est que c'est une pensée en fait compliquée. Compliquée pour une raison simple, c'est qu'elle est trop souvent réduite à des clichés et des schémas simplificateurs qui fait que, du coup, on a du mal à l'entendre, à l'accepter. Non pas pour y adhérer forcément. Le but, c'est pas d'adhérer forcément à la morale stoïcienne, loin de là. C'est de voir la profondeur et ce que l'on peut en tirer pour soi aujourd'hui, quoi. Ce qui est autre chose qu'une adhésion inconditionnelle. C'est bien l'adhésion, c'est d'ailleurs précisément un mouvement intellectuel qui est à l'opposé de la philosophie. La philosophie requiert le contraire de l'adhésion. L'adhésion, c'est le ressort de l'idéologie. On adhère à une idéologie, c'est-à-dire à une vision du monde constituée. La philosophie ne peut pas être de l'ordre de l'adhésion, tout simplement parce que c'est un exercice critique. Et que par définition, l'exercice critique suppose que ça n'adhère pas au sens même physique du terme. Quand ça colle de trop à l'esprit, eh bien forcément, on ne peut pas exercer la critique. Donc, il ne s'agit pas d'adhérer à ce que je vais présenter, cette morale stoïcienne. Il s'agit simplement de se débarrasser quand même de ce qui peut faire qu'aujourd'hui, on serait tenté rapidement de la repousser et de ne pas voir la profondeur et le bon usage que l'on peut en faire pour aujourd'hui. C'est aussi pour ça que, si vous êtes d'accord comme règle du jeu, je souhaiterais qu'on ne discute pas trop, surtout sur des chemins un peu annexes, parce que là, j'ai besoin de déployer un peu dans sa complexité, sa totalité, cette pensée-là. Ça ne vous empêche pas d'intervenir. Mais... Alors, on va partir d'un texte qui est accessible en traduction française. Il y a plusieurs traductions, d'ailleurs, qui est, en fond, le premier texte complet sur le stoïcisme. Vous vous souvenez, le stoïcisme est une pensée, une morale qui parcourt plusieurs siècles, hein. Depuis le fondateur qui est Zénon de Kition ou Citium, qui est moins trois siècles, enfin avant notre ère, jusque, disons, au second siècle de notre ère. C'est-à-dire que ça, c'est une pensée vivante qui parcourt cinq siècles. Ça veut dire que la force quand même de cette pensée. Considérez qu'on n'en est pas encore à cinq siècles concernant ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. Ça ne fait pas encore cinq siècles, et déjà la philosophie des Lumières s'épuise aujourd'hui largement dans les esprits, quoi. Donc c'est dire la force de cette pensée. Alors vous pourrez m'objecter le fait qu'à l'époque, le temps était plus lent qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, on est dans un temps accéléré où tout a tendance à s'user à vive allure. Néanmoins, malgré cette nuance, le fait que le stoïcisme dure cinq siècles de manière active, c'est-à-dire de manière créatrice, en dit long sur la puissance de cette pensée. Donc ça démarre, moins trois siècles, avec, je le rappelle rapidement, hein, avec donc Zénon. Ensuite, il y a deux grandes figures qui sont Chrysippe, mais je l'ai dit l'autre fois, hein, Chrysippe, Cléante, Cléanthe, voilà. Ça, c'est le stoïcisme ancien. Ensuite, il y a un moyen stoïcisme qui est autour de le premier siècle avant notre ère, avec des figures qui sont beaucoup moins connues. Sachant que le stoïcisme, c'est une école, c'est une des grandes écoles de la philosophie antique, hein, avec le platonisme, l'académie, hein, l'aristotélisme, hein, Aristote, c'est-à-dire le lycée, avec le scepticisme, enfin je ne rappelle cela que très rapidement, et puis le cynisme. Donc c'est une des grandes écoles, et enfin l'épicurisme, qui est l'autre grande école, un peu en miroir du point de vue de la philosophie morale. Donc ces écoles, il ne faut pas les entendre au sens de l'université actuelle, c'est des lieux vivants où la philosophie n'est pas simplement un enseignement édicté par un prof, on dirait, mais véritablement c'est un mode de vie, au sens où ce qui est enseigné vise à transformer sa vie. On utilise même le verbe qui va devenir après un verbe religieux, chrétien, mais vous savez la dette qu'a le christianisme par rapport à la philosophie grecque, on utilise le terme de conversion. C'est-à-dire, conversion, littéralement, on peut l'entendre, le mot français, hein, c'est se réorienter, se tourner autrement, changer de position dans l'existence, de posture dans la vie, hein, c'est ça. Un peu comme on trouve le mot conversion, vu que c'est la saison, en ski. Hein, en ski, c'est ça, la technique de la conversion, c'est se réorienter, changer de position avec les skis. Et donc, enfin, il y a la dernière grande époque du stoïcisme, c'est ce qu'on appelle, à mon avis, à tort, le stoïcisme impérial. Impérial parce que c'est pendant la période des empereurs romains. Des empereurs romains qui vont être soit chrétiens, soit encore hellénistiques. Ce qui veut dire que dans les périodes d'empereurs chrétiens, le stoïcisme sera rejeté, avec nécessité d'exil pour un certain nombre. Et puis, donc, les grandes figures de ce stoïcisme impérial, je le rappelle, c'est Épictète, Sénèque, et puis, alors, celui qui a un empereur, effectivement, qui a été un empereur, Marc Aurèle. Donc ça, c'est une période où on a des écrits qui nous sont restés accessibles jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, c'est seulement à partir de cette période qu'on peut avoir une idée assez complète des textes du stoïcisme. Quoi. Le stoïcisme antique, on a vaguement des fragments, mais vraiment des fragments, c'est pire que les pré-socratiques, ou alors des écrits complètement indirects. C'est ce qui explique que les premiers grands textes du stoïcisme, ce sont les écrits que l'on attribue, et à tort, à Épictète. Et pourquoi dis-je à tort? C'est encore plus compliqué. Parce que Épictète, je vais le préciser, n'a fait qu'un enseignement oral. Il récusait l'écrit. Il privilégiait l'oralité comme mode de transmission, mais aussi de pensée. Et que lui n'a rien écrit. Donc les textes d'Épictète, on les a à travers un de ses disciples, qui a été aussi un grand stoïcien, qui lui était une figure politique importante d'ailleurs, qui s'appelle Arien. Alors Arien, attention, ça n'a rien à voir avec la race arienne ou l'arianisme. Et le distinguo est tout simple, on peut le faire d'un point de vue orthographique. Arien, dans ce cas-là, il y a deux R. Arianus. Son nom exact, c'est Flavius Arianus Xénophon. Alors Xénophon, c'est un nom grec encore, alors que Flavius Arianus, c'est nom latin, romain. Et c'est lui qui, comme disciple, élève d'Épictète, a enregistré par écrit, alors c'est pas qu'enregistré, c'est ça le problème, la pensée, les textes qui sont du coup attribués à Épictète. Donc les deux grands textes qui sont connus et qui sont la base même accessible aujourd'hui du stoïcisme, c'est les entretiens. Alors, les entretiens, c'est en fait ce qui est le plus près de la pensée même de la parole d'Épictète, au sens où c'est les notes de cours qu'a consigné Arianus. Les notes de cours, et notamment dans les cours de l'école stoïcienne, il y avait deux parties. Il y avait une première partie qui était plutôt exégétique, c'est-à-dire des commentaires de textes. Et la deuxième partie, c'était une partie de dialectique, de discussion, de conversation. Et c'est plutôt cette deuxième partie qui a été consignée par écrit par Arien et qui fait l'objet des entretiens d'Épictète. Certains des livres des entretiens ont disparu, ne sont pas accessibles d'ailleurs. Mais enfin, il y a quatre livres d'entretiens qui sont accessibles. Et qui sont des notes de cours, ce qu'on fait encore aujourd'hui par rapport à des auteurs. Par exemple, c'est le travail de Gilanus par rapport au cours de Béni Lévy. Hein. C'est un exemple parmi d'autres, quoi. C'est ce qu'on a pu faire aussi avec Gilles Deleuze. C'est ce qu'on fait, alors, surtout avec Michel Foucault. Vous savez que tous les derniers livres, il y a encore un livre qui vient de paraître, là, sur la chair, je ne sais plus le titre exact. Enfin, c'est sur la question du rapport à la chair, l'invention de la chair,
qui est le premier.
Et tout ce qui est antérieurement appelé dit et écrit, ce sont en fait des notes prises de ses cours au Collège de France et qui ont été établies par des philosophes qui ont été élèves de Michel Foucault. Donc il n'y a pas de différence en réalité dans le statut de ces entretiens. On ne va pas s'intéresser là aux entretiens, on va s'intéresser à un texte plus court, beaucoup plus court, qui s'appelle le manuel d'Épictète. Alors, le manuel d'Épictète est d'Arien. Et c'est une synthèse faite par Arien de la pensée orale d'Épictète. Alors, on pourrait rascociner à l'infini pour dire, mais est-ce que c'est Arien ou est-ce que c'est Épictète? En fait, tous les philologues et les historiens des idées antiques s'accordent pour dire que c'est avant tout la pensée d'Épictète. Que Arien, en tant que fidèle élève et très bon connaisseur d'Épictète, s'est attaché à faire un condensé des paroles, des cours d'Épictète. Un condensé qui est en fait une arme. Alors, le manuel d'Épictète, c'est un petit livre. Ça donne même pas une idée. Là, j'en ai deux. Voilà, ça, c'est ça. En fait, le titre grec de manuel, c'est En Keiridion. Alors, ça s'écrit K-H-E-I, En Keiridion. Alors, dans En Keiridion, ce mot est forgé sur le radical Keir, K-H-E-I-R, c'est la main. Donc, vous voyez, manuel est une traduction intéressante et assez juste, même si elle réduit. Parce que un keiridion, littéralement, c'est ce qu'on a sous la main. Ça désigne. Donc, un manuel, c'est un peu ce qu'on a sous la main. Et plus précisément, ça peut désigner ça, un petit poignard. Le petit poignard que l'on pouvait avoir à l'époque hellénistique pour se défendre. Donc, c'est un poignard moral, un poignard intellectuel. Le petit poignard que l'on avait avec soi sous la main. Voilà, donc on va surtout s'appuyer sur ce manuel, qui est une synthèse assez remarquable de la pensée stoïcienne telle qu'elle est formalisée, enseignée par Épictète, une des grandes figures donc du stoïcisme tardif, du stoïcisme dit impérial. Alors, je reviens quand même sur quelques repères encore. Sénèque, c'est celui, alors Sénèque qui par exemple est pas mal traduit en français, on a beaucoup de livres. Ouais, je vous donne un exemple, c'est une édition parmi d'autres de Sénèque, voilà, de la tranquillité de l'âme, qui déploie des pensées qui sont d'ailleurs assez proches de celles d'Épictète. Donc Sénèque, c'est au tout début de l'ère chrétienne, c'est en gros de 0 à 65, enfin de l'ère commune. Épictète, c'est en gros de 50 à 125. Corelle, c'est de 121, ça on sait exactement les dates parce qu'il est empereur, à 180, à plus 180. Et il est nommé empereur, enfin nommé, oui, si, il y avait une forme de... En 161. Épictète, alors, deux, trois précisions sur son existence parce qu'elle est intéressante, j'avais évoqué rapidement l'autre fois. Donc, il est né, en fait, en Asie mineure, en fait, dans une ville qui est Hiérapolis, qui est en Phrygie, qui est une région actuelle de l'Asie mineure. Donc, l'Asie mineure, si vous voulez, c'est le centre de la Turquie. C'est pour ça que, enfin, je ne vais pas gloser sur ce sujet qui nous entraînera ailleurs, mais ce qui se passe en Turquie et les dérives de la Turquie, c'est quand même une vraie question, et la question du rattachement ou pas de la Turquie à l'Europe, qui est une question qui n'est jamais traitée complètement. C'est des vraies questions compliquées parce qu'en réalité, la Turquie, c'était le foyer principal de la pensée hellénistique et par la suite chrétienne. Une majorité de grands philosophes hellénistiques et aussi de grands penseurs ou philosophes ou théologiens chrétiens étaient nés et ont vécu dans cette Asie mineure, c'est-à-dire ce cœur de la Turquie, si vous voulez. La Turquie, c'est comme une espèce de grosse péninsule qui s'avance vers la mer, hein. Et donc l'Asie mineure, c'est ça, quoi. C'est un lieu, vraiment un foyer extraordinaire. Et donc Épictète est né en Asie mineure, mais parmi beaucoup d'autres. Épictète, comme beaucoup d'autres, il a connu des périodes moins fastes par la suite, qui étaient la répression des empereurs, qui, Vespasien notamment pour lui, qui ne supportaient pas la pensée hellénistique, qui la jugeaient dangereuse, soit qu'ils fussent chrétiens, soit qu'ils voulaient rompre avec la pensée stoïcienne, qui était très critique avec la tentation dictatoriale ou en tout cas autoritaire de certains de ces empereurs. Hein. Les philosophes stoïciens étaient là-dessus très engagés politiquement, contrairement, on y reviendra bien après, ce qu'on peut penser. Et donc, ils se sont tous opposés aux empereurs qui connaissaient des dérives autoritaires. Et donc, ils étaient expulsés pour éviter. Et Épictète a connu ce sort-là et est reparti en Asie mineure, justement. C'est dire que c'est un foyer. Mais donc, Épictète est d'abord un esclave. Et ça, je le rappelle, je l'avais dit l'autre fois, c'est important. Il faut savoir que la pensée et les écoles stoïciennes n'étaient pas des écoles aristocratiques. L'académie platonicienne était plus dans ses recrutements, mais ce n'est pas une loi absolue, aristocratique, disons. Mais les écoles épicuriennes, les écoles stoïciennes de la période hellénistique, de cette longue période hellénistique, étaient ouvertes, comme on dirait aujourd'hui, à une mixité sociale extrêmement forte, quoi. Et c'est ce qui explique, sans rentrer dans les détails, que quelqu'un comme Épictète ait pu d'abord bénéficier de l'enseignement au sein de l'école stoïcienne, alors qu'il était esclave. C'est-à-dire que son maître l'avait autorisé à suivre les cours, enfin l'enseignement de l'école stoïcienne. Son maître, je ne sais pas si je rentre dans tous les détails, s'appelait Épaphrodite. Alors, il a suivi, donc, quand il était esclave, l'enseignement, je donne les noms pour. Son enseignant, son maître était Musonius Rufus. Maître Épaphrodite va finir par affranchir ce qui était une pratique assez courante, donc il faut avoir en tête que, contrairement par exemple au système des castes en Inde, où on est de naissance jusqu'à sa mort dans telle case, par exemple intouchable, l'esclavage en grec était un statut mouvant. On n'était pas forcément esclave et on ne mourait pas forcément esclave. Hein. Je vous rappelle, hein, on l'avait évoqué l'an dernier. Par exemple, Platon a été une période où il a connu le statut d'esclave. Donc, l'affranchissement, c'est-à-dire la libération par le maître du statut d'esclave, était une pratique courante. Donc, Épaphrodite affranchit Épictète, ce n'est pas une exception. Et dès lors qu'il est affranchi, il va ouvrir une école stoïcienne à Rome. Il va devenir chef d'une école stoïcienne à Rome, donc pendant l'Empire romain. Si vous voulez, il faut entendre que dans la période hellénistique, il n'y avait pas qu'un seul pôle, qu'une seule école physiquement parlant. Hein. Quand on parle d'école stoïcienne, il y avait des écoles un peu partout, en réalité, des lieux physiques d'enseignement et de discussion un peu partout. Comme je le disais, il y a des vagues successives de répression par les empereurs. Et alors, quels sont les empereurs, des noms quand même, d'empereurs autoritaires et extrêmement répressifs pour les stoïciens? Ben, c'est le fameux Néron, notamment. C'est aussi, donc, je l'ai cité tout à l'heure, Vespasien. Figure donc d'empereur répressif, ça a été Domitien. Et donc, pour être très précis, c'est sous Domitien, donc en 93-94, que Épictète se voit obligé de quitter Rome pour éviter l'emprisonnement, donc de fermer son école et de partir. Alors il part d'abord en Bulgarie, l'actuelle Bulgarie, c'est à Nicopolis. Nicopolis, qui est une ville qui existe toujours d'ailleurs en Bulgarie sous le nom de Nicopole. Et ensuite, il ira aussi donc à nouveau en Asie mineure et ça. Sa vie là est d'extrême pauvreté. C'est quelqu'un qui vit dans le dénuement le plus absolu. C'est pas seulement anecdotique, ça, ça dit aussi comment, dans le stoïcisme, l'exigence d'un mode de vie conforme à la morale stoïcienne pouvait aboutir donc à accepter l'extrême dénuement, quoi. Et même, vous me direz, il y avait l'empereur Marc Aurèle. Marc Aurèle, tout empereur qu'il était, a vécu d'une façon extrêmement modeste, en fait. L'enseignement, dans une précision sur l'enseignement de l'école stoïcienne, donc, encore une fois, les séances d'enseignement, ne les entendons pas simplement au sens de cours universitaires. Hein, il y avait ces deux parties, une partie donc effectivement plutôt exégétique, l'exégèse étant le commentaire des textes anciens, ce qui est la forme que prend l'enseignement à partir de la période hellénistique en réalité. Par exemple, pour ce qui est de Platon, toute la grande lignée des auteurs, des grands auteurs qu'on appelle néoplatoniciens, leur enseignement était avant tout un enseignement de commentaire. Ben, par exemple, des dialogues de Platon, d'Aristote, etc. Ce qui ne veut pas dire que dans le commentaire, dans l'exégère, il n'y avait pas l'invention d'une pensée. C'est-à-dire qu'ils allaient au-delà, quoi. Ils se hissaient sur l'épaule des géants qui les avaient précédés, mais du coup, ils voyaient plus loin que les géants qui les avaient précédés. C'est ça, à la fois la modestie et la grandeur de ceux qui sont dans cette position, quoi. Qui ne prétendent pas, contrairement un peu à une obtentation moderne, tout inventer depuis zéro, quoi. On se hisse sur les épaules de ceux qui nous sont précédés, et du coup, on peut éventuellement voir un peu plus loin. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ensuite s'ouvrait un débat structuré, ce n'était pas un bavardage, ce n'était pas un café philo, un débat où on reprenait les questions abordées précédemment pour les confronter dans le dialogue socratique, en quelque sorte, Socrate étant toujours la référence majeure pour les stoïciens. Et en particulier, Épictète se réfère souvent à la figure et à la vie de Socrate. Alors, venons-en maintenant donc au poignard, au petit poignard qu'on a sous la main, à l'enchéridion. Donc, ce document, écrit, rédigé par Arien, mais qui est un condensé, qui est le meilleur condensé qui nous soit parvenu, de la pensée stoïcienne, de la morale stoïcienne, et en particulier de l'enseignement d'Épictète. Juste une parenthèse. Pourquoi a-t-on conservé très largement les textes écrit des stoïciens pendant la période du stoïcisme impérial? Ben, c'est du fait des chrétiens. C'est que le christianisme existe à partir de là, et que le christianisme, philosophiquement, s'est construit à partir d'un côté d'un commentaire de la Bible juive, de la Torah, et aussi de ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et à partir, ça lui donnait la base théorique de la philosophie grecque, et en particulier de Platon et d'Aristote, mais aussi beaucoup du stoïcisme. Parce que dans le stoïcisme, le christianisme a pu trouver des bases théoriques pour fonder sa propre philosophie et sa propre éthique. Ce qui veut dire que les philosophes chrétiens se sont attachés à recopier et à conserver, à transmettre les textes stoïciens, les grands textes stoïciens. C'est ce qui fait qu'on les connaît tous très bien, quoi que ce soit ces textes d'Épictète, via rien, Sénèque, Cicéron et autres. C'est donc grâce... Pas forcément d'ailleurs des philosophes, j'abuse du terme. C'était les scribes chrétiens, les intellectuels chrétiens de l'époque. Hein. Par exemple, au Moyen-Âge andalou, on sait qu'on redécouvre Aristote grâce aux penseurs arabo-musulmans. Oui, mais Avicenne, il va utiliser cela pour forger son propre système de pensée. Mais c'est aussi tout le travail de ceux qu'on ne connaît pas, des scribes qui recopient, qui transmettent, etc. Tout un travail collectif anonyme, quoi. Voilà ce qui est du manuel. Le manuel, c'est un texte court qui est organisé comment ? Il est organisé à ce qu'on pourrait appeler des aphorismes, c'est-à-dire c'est des très courts chapitres. Un chapitre peut faire 5-10 lignes, pas plus. Certains chapitres sont plus longs, mais sont subdivisés en paragraphes différents que l'on a numérotés. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une forme philosophique que l'on connaît bien par la suite, avec Nietzsche par exemple, entre autres, la forme de l'aphorisme. En fait, on peut dire que le manuel est structuré sous la forme d'aphorisme. On peut préciser aussi que très souvent, ces aphorismes commencent par un « tu » ou s'adressent à un interlocuteur, à un destinataire. Comme d'ailleurs les entretiens d'Épictète. Sauf que dans les entretiens d'Épictète, qui sont la transcription des conversations lors de l'enseignement d'Épictète, dans les entretiens d'Épictète, le « tu » désigne toujours des destinataires, des interlocuteurs précis, qui sont ceux qu'a connus Arien dans les enseignements. Alors que le tu du manuel d'Épictète est un tu impersonnel. Le tu du manuel, ça désigne tous les destinataires du manuel, tous ceux qui veulent s'éduquer à la philosophie et à la morale stoïcienne. Donc c'est tout lecteur qui utilise le manuel comme un poignard, comme une arme intellectuelle et morale. Voilà. Donc c'est possiblement nous, c'est... Voilà. C'est ce que les traducteurs ont pris l'habitude de nommer les progressants. Les progressants, c'est-à-dire ceux qui veulent progresser, voilà, dans l'accès à... L'accès à quoi ? Pas simplement d'abord à la connaissance, dans l'accès à la sagesse, vers la sagesse stoïcienne. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, le manuel, c'est un outil de paideia, ce que l'on appelle en grec paideia, pas P-A-I-D-E-I-A. La paideia, qu'on traduit trop couramment par un terme qui n'est pas exact d'ailleurs, pédagogie, parce que la pédagogie, c'est pas simplement la paideia, vous sentez que c'est pas le même mot, il y a gogie qui veut dire conduire. Bon. La paideia, c'est cet apprentissage, je dirais presque cette ascèse vers un savoir, mais qu'un savoir qui mène à la sagesse. C'est pour ça que le terme progression et être un progressant, c'est une formulation, une traduction qui est assez intéressante et assez juste, plutôt qu'élève, plutôt que... Pourquoi Arien, dernier point sur la forme, donc le fait que ça soit de courts aphorismes et que le manuel est en plus un livre très bref. Pourquoi cette brièveté ? On pourrait dire, c'est tout ce qu'ils avaient à dire. En fait, il y a une intention très précise, il faut vraiment qu'on ait ça sous la main comme une arme, donc, parce que un des principes essentiels du stoïcisme, c'est que pour progresser, il faut pouvoir mémoriser des principes, des règles simples qui, dans les situations et les circonstances de la vie quotidienne, nous aident à trouver le bon jugement et la bonne attitude et la bonne conduite de vie. Vous voyez ? Donc pour trouver le bon jugement et la bonne attitude de vie, il faut pouvoir mémoriser des principes simples. Alors, cette mémorisation est d'autant plus essentielle qu'on est dans une période où très peu de personnes, en plus, ont accès à des livres. Et donc, la mémoire est essentielle. Je vous rappelle, je l'avais évoqué, que la mémoire, en tout cas la mémoire intellectuelle livresque de l'Antiquité, n'avait rien à voir avec notre pauvre mémoire aujourd'hui. ils étaient capables de mémoriser des livres entiers, parce qu'ils ne les avaient pas sous la main. Avec des techniques qui ont été étudiées, d'ailleurs qu'on maîtrise un peu, des techniques donc, de mémorisation, des techniques mnémotechniques assez extraordinaires, par exemple de structurer un livre comme l'intérieur d'une maison et les pièces. Ce qui est une mnémotechnique pour vraiment que l'on n'est plus capable de faire. Quoi. Pourquoi cette brièveté ? D'où le fait que dans le stoïcisme a nous rappelé que l'exercice de mémorisation, qu'on a aujourd'hui tendance à dévaloriser totalement dans tous les domaines, est néanmoins un exercice essentiel. Pour pas simplement connaître, aujourd'hui on a tendance à dire, ben, avec Wikipédia et autres, on connaît, donc c'est pas la peine d'apprendre par cœur. Le problème de la mémorisation, c'est que ce n'est pas simplement connaître l'enjeu, accumuler un savoir, c'est former un esprit. C'est un exercice spirituel. C'est véritablement un exercice spirituel. C'est pour ça que tous les pédagogues démagogues d'aujourd'hui qui ont tendance à dire « Ah, ces pauvres petites têtes blondes, il ne faut pas les martyriser en les obligeant à apprendre des poésies ou les divisions, les multiplications, les règles. » C'est vraiment criminel, profondément c'est criminel, quoi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment on maltraite les esprits, les jeunes esprits. Quoi. Par exemple, apprendre par cœur de la poésie ou des passages de Corneille. On ne sait plus le faire parce qu'on dit qu'aujourd'hui, c'est martyriser les élèves. On pourrait dire les choses comme ça. C'est l'expression que retient Pierre Hadot. Au fond, ce que le manuel d'Épictète, comme beaucoup d'ouvrages de l'Antiquité stoïcienne, nous invite à faire, ce sont des exercices spirituels. Ce qui a été repris par la suite par les chrétiens, justement, et notamment les jésuites. C'est pas hasard, d'ailleurs, parce que Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, c'est des jésuites. Donc là, on est bien au-delà. Mais on est à la Renaissance, à l'aube des temps modernes. Et je rappelle que l'aube des temps modernes est basée sur un retour à l'enseignement de l'Antiquité. Ignace de Loyola, donc, écrit ce livre qui sont les exercices spirituels, qu'il nomme comme tels. Et c'est pas hasard si les jésuites sont ceux qui ont développé l'enseignement en France. En Europe, et même au-delà d'ailleurs, jusqu'en Chine. Enseignement, école, exercice spirituel, ça va de pair, quoi. Il faut se rappeler l'importance, c'est pour ça que la pensée sur la laïcité doit être complexifiée, parce qu'on a tendance, par ignorance, à considérer que l'école, l'enseignement, l'école laïque, ça date, c'est lié à la République, la Troisième République, etc., Jules Ferry. Mais il faut savoir que quand en France l'école obligatoire est introduite, 19e siècle, le mouvement de scolarisation est largement entrepris. Et que l'institution républicaine de l'école, ce n'est pas ça qui va être le saut qualitatif véritablement. Parce que le fait que l'école soit obligatoire n'empêchait pas que, par exemple, pour des raisons de nécessité, beaucoup de jeunes ruraux, notamment, je pense à tous les enfants d'agriculteurs, séchaient largement l'école parce qu'on avait besoin d'eux dans les champs. Mais dans les classes de la société supérieure, la scolarisation était déjà quasiment complète. Et complète grâce, ou à cause, comme on veut, aux jésuites notamment. Nécessité d'exercices spirituels, et les exercices spirituels, c'est des exercices de répétition, de mémorisation, fondamentalement. Ce qu'on retrouve dans le judaïsme, d'ailleurs, très fortement, d'ailleurs, dans le judaïsme, répéter. Il y a quelque chose qui est très fort dans le judaïsme, mais aussi qu'on va retrouver de façon moins marquée, parce que c'est spiritualisé dans le christianisme. Le fait que, par exemple, la prière est considérée comme... La prière, c'est un exercice spirituel qui est basé sur la répétition. Et un point extrêmement fort, par exemple, dans la prière juive, c'est de dire, il faut prier. Même si tu ne comprends pas le sens, même si tu ne sais pas... Ce qui est important, c'est l'acte. C'est l'acte et la répétition de l'acte. Alors, dans le christianisme, on retrouve ça aussi. Une nuance près, c'est que le christianisme est la spiritualisation de la pratique juive. Donc, il y a un écart. Là, ce n'est pas un jugement de valeur que j'évoque. C'est que dans le christianisme, il y a l'exigence qui est à chaque fois un sens immédiat que l'on met dans tel acte. L'acte ne vaut pas en lui-même. Alors que dans l'exercice spirituel premier, par exemple dans le judaïsme, c'est l'acte qui vaut par lui-même. Et donc sa répétition. Et le sens vient après, d'une certaine manière. Vous voyez, c'est une différence d'optique qui est essentielle à avoir en tête. Et dans le stoïcisme, les exercices spirituels de l'Antiquité grecque, gréco-romaine, on se rapproche beaucoup plus, je dirais, de la pratique du judaïsme de ce point de vue-là, quoi. Ce qui importe, c'est l'exercice pour lui-même, l'acte pour lui-même, la répétition pour lui-même. Et c'est ça qu'il faut entendre par exercice spirituel. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que le manuel, c'est d'abord un outil pratique. Le manuel des textes, je dirais presque, c'est un aide-mémoire, un rappel à l'ordre, c'est un rappel à l'ordre permanent. Pour être capable de faire face correctement à toutes les situations de la vie quotidienne. J'insiste là-dessus parce que c'est une façon de voir les choses qu'on a du mal à accepter dans notre modernité. Dans notre modernité, c'est vrai qu'on a tendance à considérer que tout ça, c'est idiot, que ça sert à rien, que ça n'a pas de sens. D'ailleurs, effectivement, on peut retrouver cette position, ces pratiques dans les philosophies et pratiques spirituelles venues d'Orient. Mais ce qui est quand même étrange, c'est que on va accepter mieux cela parce qu'il y a un côté exotique et on a du mal à l'accepter dans notre propre horizon. C'est à mon avis une tricherie et une facilité. Et la meilleure figure qui incarne ça, c'est Matthieu Ricard. Désolé de ça. Ce que je veux dire, donc revenons-en au stoïcisme, c'est avant tout une pratique qui est une exigence de vie qui se traduit par la répétition d'actes quotidiens. Et que le manuel, c'est un outil pour cela. C'est pour ça que le mot manuel est un mot parfaitement bien choisi pour la traduction française. Un manuel, c'est ça, quand on prend un manuel pour les nuls d'informatique, ben c'est ça. Entrons dans le contenu maintenant, en essayant de voir, pour avoir des repères, comment est structuré le contenu du manuel. Parce que c'est un peu compliqué, parce qu'à la fois, selon les commentateurs, on va trouver plusieurs, ce qu'on appellerait un plan du manuel, c'est un enchaînement logique des parties du manuel. On voit que selon les commentateurs, il y a plusieurs plans qui s'organisent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce petit livre ne suit pas une progression linéaire. Donc, n'est pas évident de trouver des grandes parties, des grands thèmes qui se succéderaient chronologiquement, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'allers-retours. C'est une pensée en spirale, d'une certaine manière, avec des allers-retours. Donc, le plan, la définition d'un plan clair n'est pas si simple que ça. Ce qui explique que si vous lisez tous les commentaires anciens ou récents, vous trouvez plusieurs façons de le structurer. Alors, malgré tout, pour tenter d'y voir clair, on peut dégager des grands axes thématiques qui ne sont pas tout à fait chronologiques. Il y a une première partie qui est très courte, qui est une sorte d'introduction qui pose le principe, la règle la plus essentielle. Alors, je l'ai déjà évoqué, on va y consacrer plus de temps parce qu'en réalité, c'est très compliqué. C'est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est essentiel, ça. Donc, ça correspond au chapitre 1, essentiellement, 2, éventuellement. 2, c'est plus sur l'enjeu de la nécessité de cette distinction, qui est une distinction que l'on doit faire constamment. Et là, j'anticipe tout de suite l'enjeu. L'enjeu, c'est que si on est capable, en toutes circonstances, de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, on est libre. On est libre. La liberté, c'est le prix de la liberté. Donc c'est un enjeu essentiel. Dépendre de nous, ne pas dépendre de nous, ce n'est pas forcément la meilleure formulation en français, la meilleure traduction. Et vous allez voir là dans la traduction que j'ai retenue, en fait, c'est distinguer ce qui est à notre portée et ce qui n'est pas à notre portée. Ce n'est pas tout à fait la même tonalité. Parce que ce qui est gênant dans l'expression « ce qui dépend de nous ou pas », ça introduit la notion de dépendance. Et la dépendance, c'est une notion qui tout de suite entraîne vers des horizons, la question du pouvoir, etc. Alors que ce qui est à notre portée, je dirais que c'est d'une certaine manière un peu plus neutre. Donc c'est une meilleure traduction. Donc ça c'est, on peut dire, l'introduction qui pose le principe de base d'où tout va découler. Enfin. La deuxième partie thématique, le deuxième grand axe, qui est, encore une fois, ne suit pas forcément la chronologie des chapitres. C'est ce qu'on peut appeler la discipline du jugement. C'est l'exercice, s'exercer à avoir le jugement juste. C'est, en d'autres termes encore, c'est l'art de l'exercice critique et de l'usage critique de nos représentations. Un maître mot, c'est représentation. C'est-à-dire, le jugement, c'est une forme de représentation. La question est dans la représentation. Ce que nous dit Épictète, c'est qu'on est servile, on est contraint, on n'est pas libre. Et avec les conséquences de tout cela par rapport à nos désirs, à l'action, on va être malheureux au final parce que on a des représentations erronées de ce qui est extérieur. Alors, ça va très loin, y compris, vous allez voir, y compris de la mort. De la mort, de la maladie, des événements fâcheux de la vie, enfin, les représentations de tous les objets par rapport auxquels on entretient une relation. C'est-à-dire tout ce qui constitue notre vie, notre environnement, les circonstances de la vie, les événements. Donc, toute la question, c'est celle de cette discipline du jugement et des représentations. En deux termes encore, mais on va approfondir, c'est se débarrasser des opinions. Ce qu'en grec on appelle la doxa. Et c'est bien précisément ce qui est une des impasses de notre monde contemporain, qui est qu'on n'est que dans l'opinion. Pourquoi la démocratie pose problème à un plan politique? Parce que ce n'est pas qu'au plan individuel que ça se joue. C'est aussi au plan collectif et politique. C'est qu'on n'est plus que dans une démocratie d'opinion. Et que la règle instituée dans les faits qui gouvernent notre société, c'est les sondages d'opinion. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement, mais c'est qu'un exemple actuel, va maintenir une position ferme ou pas par rapport à la réforme de la SNCF? C'est si les sondages d'opinion établissent qu'une majorité ou pas de Français sont pour ou contre. Or, ce qu'un sondage n'exprime, ce n'est qu'une opinion. C'est-à-dire qu'en gros, c'est justement ne pas être dans la discipline du jugement, l'exercice critique sur les représentations et l'usage qu'on en fait. Encore une fois, l'opinion est une forme de représentation. C'est, ce volet, on va revenir à fond là-dessus, mais représentation, c'est une forme d'image. C'est la vision que l'on a, l'image mentale qu'on en a d'un objet quelconque. Donc ça, c'est la deuxième partie, ou plutôt le deuxième grand axe thématique du manuel. Le troisième axe thématique, c'est la discipline du désir. Alors ça, c'est un axe extrêmement important, qui est l'objet très fréquemment de malentendus. Simplement, je retiendrai ceci, ça ne peut le stoïcisme ne peut qu'intéresser les gens, les psychanalystes ou ceux qui s'intéressent à la psychanalyse. Si l'on veut bien considérer que la psychanalyse considère le désir comme une notion centrale. Or, Épictète développe vraiment une réflexion sur la question du désir. Mais fondamentalement, il s'agit de la même chose que ce que la psychanalyse nomme désir. Il n'y a pas de différence, c'est pas un homonyme, c'est vraiment un synonyme, quoi. Le quatrième axe thématique, c'est la discipline de l'action. Alors, à chaque fois, c'est double, hein, c'est très dialectique. C'est-à-dire que le désir, c'est la discipline du désir et de la répulsion. Hein, c'est l'inverse, de l'aversion. Hein, c'est... Et la discipline de l'action, c'est pareil, c'est la discipline de l'action et de la non-action, de la retenue, de l'action mentale. Alors, juste une remarque, ce plan thématique correspond en fait aux trois, à une théorie de l'âme dans l'Antiquité, et notamment le stoïcisme, c'est que l'âme est organisée dans ces trois parties, ces trois étages, qui est la capacité au jugement. Et on va voir que le jugement, ça renvoie à la raison, au logos. C'est la partie supérieure de l'âme, hein, je viendrai après, qui commande les autres. Et ensuite, vous avez la partie du désir, de l'impulsion du désir. Et là, ça va toucher aux affects. Et ensuite, vous avez le troisième étage, qui est l'impulsion à agir, ou la répulsion d'en agir. Donc ça reflète donc comment l'on considère l'âme dans le stoïcisme. Ces trois étages, quoi. Sachant que c'est l'étage supérieur du logos, de la raison, c'est-à-dire du jugement, de ce qui dirige nos représentations, qui va déterminer nos désirs et nos actions. C'est pour ça que cette partie sur le jugement est une partie majeure. Jugement, usage de nos représentations, hein. Et ça, je crois que c'est une leçon essentielle pour aujourd'hui, parce que précisément, je reviens sur la pratique de la démocratie d'opinion, on a abandonné cela. La dérive de la démocratie en démocratie d'opinion, c'est précisément qu'on a abandonné l'exigence de la critique et qu'on se contente d'opinion. On se contente d'opinion, c'est-à-dire de représentation toute faite. Qu'on tient pour vrai, sans défaut. La question est posée pour le stoïcisme. Par exemple, les progressants, cette idée d'aller vers la sagesse, c'est en fait vers une opinion droite, c'est vers une représentation vraie, vers le bien. C'est pas magique, le manuel. C'est pas magique, c'est en gros. Épictète ne pense pas, comme Socrate ne le pensait pas, qu'on peut avec ça accéder à la sagesse. Qui garantit l'ataraxie, enfin, la sérénité, l'absence de troubles et le bonheur. Mais par contre, qu'il faille tendre vers, absolument. Et je dirais que de ce point de vue-là, c'est aussi le problème d'aujourd'hui. Qu'on ne puisse pas se libérer totalement, loin de là, des opinions, et aller jusqu'à ce dépoussiérage complet qui fait qu'on a une représentation juste, exact, vrai. Certes, qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout, mais qu'on ne puisse... Ça ne peut pas être une raison pour nous dire, bah, du coup, on ne fait rien. Toutes les opinions s'équivalent, ce qui est un peu la tendance actuelle. Tout s'équivaut. D'ailleurs, ce qui est la transposition du libéralisme économique à l'ordre de la pensée, ce qui est dramatique. Toutes les opinions se valent, donc allez, on va laisser tomber la question, quoi. Ça ne sert à rien. Non. C'est... Qu'on ne puisse que peu, sans doute. Qu'on ne doive pas, certes. Alors, il y a une dernière partie hein, dans le manuel, là, qui est la dernière partie chronologiquement. Mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des passages avant qui évoquent des chapitres. Évoquent cela, c'est de toutes les axes précédents, quels conseils spécifiques Épictète tire. Quel conseil à l'attention du destinataire du manuel, c'est-à-dire ceux qui veulent progresser, à l'attention d'être progressant. Donc, quel conseil pratique, quelles règles de vie, quelles règles en termes d'exercice il tire. Voilà. Ça, c'est le dernier plan, le dernier axe, qui correspond aussi à la conclusion du manuel, mais pas seulement. On retrouve ça dans différents. Et cette partie montre bien comment. Comment c'est un manuel pratique. Comment faut tuer avec son poignard? Entendez-moi bien. Tuer justement ses préjugés, ses prénotions, ses opinions fausses, notamment. Hein, pas... Alors, cela étant posé, on va successivement approfondir chacun de ces axes thématiques. Et on va commencer par le premier point qui est le plus connu, mais qui est reçu couramment comme une espèce de cliché creux, la question de ce qui est ou pas distinction entre ce qui est ou pas à notre portée. Donc je lis, je vous enverrai, je n'ai pas eu le temps de le faire par mail, cette sélection de petits chapitres. Chapitre 1, premier alinéa, où tout est posé. C'est dans la traduction d'Emmanuel Catin, c'est cette traduction-là. Je vais lire les deux, vous voyez les petites différences. Mais celle-là est plus récente et, à mon avis, plus rigoureuse du point de vue du texte grec que celle-là. Le problème de celle-là, c'est qu'elle est plus immédiatement intelligible pour nous, mais qu'elle est plus approximative. Donc je vais lire les deux. D'abord, la plus rigoureuse. Partage des choses. C'est-à-dire, il faut... C'est le coup de poignard, hein. Le poignard, ça tranche. Et la pensée, si on réfléchit bien, penser, c'est quoi? C'est trancher. C'est-à-dire, c'est séparer ce qui est, se donne d'emblée dans la confusion la plus totale. Et je dirais que même, au fond, le bon exercice scolaire, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants si on veut que les enfants pensent? Eh bien, c'est de séparer, de distinguer.
C'est choisir.
Et pour choisir, mais si on reste dans la confusion, si on reste dans la confusion, on ne peut pas choisir. Donc voilà, partage des choses. Ce qui est à notre portée, ce qui est hors de notre portée. C'est la première phrase. À notre portée, le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion. Tout ceci, c'est quoi, au fond, ce qui est à l'intérieur de nous? En un mot, tout ce qui est notre œuvre propre. Hors de notre portée, alors attention à ne pas faire de contresens. Le corps, l'avoir ce qu'on possède, hein, les biens matériels. Et pas seulement matériels, par exemple un esclave à l'époque. Donc le corps, l'avoir, la réputation, c'est-à-dire les jugements que les autres portent, notamment sur soi, mais pas que sur soi. Les jugements sociaux. Le pouvoir. En un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre propre. Le deuxième alinéa qui forme la moitié du chapitre 1. Et si ce qui est à notre portée est par nature libre, ça veut dire qu'on peut agir dessus, on peut en avoir une maîtrise. Et par nature libre, sans empêchement, sans entrave, ce qui est hors de notre portée est inversement faible, esclave, empêché, étranger. Ce sont des termes importants sur lesquels on va plus largement revenir. Je vous lis, à la fois par plaisir, mais aussi pour vous montrer les petites nuances et les enjeux de la traduction. L'autre traduction. Donc, chapitre 1, premier alinéa. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions. En un mot, toutes les œuvres qui nous appartiennent. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps, c'est la richesse, la célébrité, le pouvoir. En un mot, toutes les œuvres qui ne nous appartiennent pas. Deuxième alinéa. Les choses qui dépendent de nous sont par nature libres, sans empêchement, sans entrave. Celles qui n'en dépendent pas, inconsistantes, serviles, capables d'être empêchées, étrangères. Voilà, vous voyez la différence de style, mais aussi peut-être d'imprécision. Alors, pardon ? Ah, les autres ne dépendent pas de nous, oui, oui, tout à fait.
Nos enfants, par exemple.
Ah oui, ça c'est essentiel. Il n'y a pas du tout la vision... Alors là, pour le coup, on est dans une vision extrêmement éloignée, d'une certaine, parce que c'est beaucoup plus compliqué, d'une certaine vision chrétienne, d'une certaine, qui est la vision du corps, la communion comme corps. Du corps social, du corps familial, etc. Où, en gros, là, on ramène ça à l'intériorité. Dans le stoïcisme, ce qui est à notre portée, ce qui dépend de nous, c'est uniquement ce que j'ai évoqué, ce qui renvoie À l'intériorité. À l'intériorité, pas à nous, parce que notre propre corps est extérieur à nous. C'est étonnant. Alors, on va l'approfondir, mais juste, j'ajoute ça avant de l'approfondir, un mot. Il ne faut pas lire là, par rapport à notre corps qui est extérieur à nous et qui ne dépend pas de nous, il ne faut pas lire là l'éternelle répétition du cliché qu'on a en tête par rapport à l'Antiquité, le dualisme corps-esprit. C'est-à-dire qu'on en conclut couramment, ben voilà, c'est encore une nouvelle preuve du dualisme qu'on trouve chez Platon. Il y a d'un côté le corps et l'esprit, c'est complètement séparé. Non, en réalité, il ne s'agit pas de cela du tout. Parce que, pour une raison très précise, c'est que cette séparation entre le corps et l'âme, dans le stoïcisme est là, elle n'est pas de l'ordre ontologique. Non. Elle n'est pas de l'ordre de la réalité des choses, des êtres. Elle n'est pas de l'ordre d'une physique. On va voir même que c'est le contraire, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va... Dans le stoïcisme, l'âme a une matérialité, appartient à la nature. La nature, donc l'âme et le corps ne sont pas de nature différente dans le stoïcisme. Il faut voir ça. Donc il n'y a pas du tout là l'expression d'un dualisme ontologique, c'est-à-dire d'être. Voilà. Il s'agit là d'un dualisme, si on tient au mot, éthique. Éthique. Et le corps est extérieur à nous, il n'est pas à notre portée. Putain, si on considère que notre corps dépend de nous, alors on est extrêmement malheureux par rapport à la maladie. Parce que, à partir de là, on prétendrait que la maladie dépendrait de nous. À notre portée, le jugement, l'impulsion, c'est l'impulsion qui nous fait agir ou pas, qui nous met en mouvement. C'est dynamis en grec. Dynamis, hein. Le désir ou le contraire, l'aversion. Et pour ce qui est hors de notre portée, le corps, y compris son propre corps, l'avoir, les possessions, la réputation, le pouvoir. Si j'anticipe un instant, mais j'y reviens, c'est tout ce qui est de l'ordre, comme dirait Lévinas, de l'altérité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, là, il y a une pensée essentielle de ce que Lévinas appellerait la séparation. C'est-à-dire qu'on est séparé de ce qui est autre. Hérité jusque dans son propre corps. Et Lévinas a des belles pages sur précisément, par exemple, le mal physique, la souffrance, c'est de l'ordre de l'altérité. Et si on prétend... C'est vrai qu'on peut jouer, on a une maîtrise, mais honnêtement, c'est une pensée pas très sérieuse, des maladies. Mais elle est toute relative, parce qu'au bout du compte, on n'a pas de maîtrise. Ce qui dépend de nous, autrement dit, ce qui est à notre portée, c'est précisément, je redis ce que j'ai dit avant, ce qui dépend de nous, ça correspond aux trois étages, aux trois activités de l'âme humaine, hein, d'accord ? Donc ce qui est... dans notre intériorité. C'est d'abord donc, le désir ou l'aversion. Alors, je vous donne de temps en temps des mots grecs comme cela pour avoir la musique, et puis des fois, ça correspond directement à des mots qu'on trouve dans le français contemporain. Donc, le désir, c'est orexis. Par contre, le contraire, là, qui est la répulsion, l'aversion, disons, c'est enklisis. E-N-K-L-I-S-E. S-I-S, pardon. Le deuxième étage ou la deuxième activité qui est à notre portée de l'âme, c'est donc l'impulsion à agir ou le refus d'agir. L'impulsion à agir, l'action, c'est hormé, H-O-R-M-E. Troisième étage, la troisième dimension, c'est donc ce qui est relatif à notre jugement et à l'usage critique des représentations, et donc à la question, comme disait Jacques tout à l'heure, du choix. Donc le jugement, c'est en grec, là, dans ce grec, on est dans le grec stoïcien, attention, hein. C'est qu'il y a différents mots grecs qui peuvent être utilisés, c'est hypolepsis, H-Y, le Y, grec, c'est un U, en fait, c'est... H-Y-P-O-L-E grave, P-S-I-S, hypolepsis. Et en, D'autre part, la capacité de, et le pouvoir, la capacité et le pouvoir de critique, de critique déterminant l'usage, le bon usage des représentations, c'est un mot essentiel, c'est pro-hérésis, pro-hérésis, si vous voulez. Le bon usage des représentations, l'usage critique plutôt des représentations. C'est, en réalité, c'est le jugement, donc l'assentiment que l'on accorde à notre jugement, quoi. Le jugement qu'on a accepté. Maintenant, je précise davantage ce qui n'est pas à notre portée, donc l'extériorité, ce qui ne dépend pas de nous. Je le décline encore plus précisément, plus complètement. Donc le corps et les parties du corps. Tout ce qui est ensuite de l'ordre des possessions, des biens matériels, des objets extérieurs qui constituent notre environnement, quoi. Plus largement que la réputation et le pouvoir, ce qui est hors de notre portée, c'est tout ce qui vient des autres hommes. Donc c'est aussi bien les opinions qu'ils ont de nous, les honneurs, les dignités qu'ils nous concèdent, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être les calomnies, les injures, les déshonneurs, les indignités. Et donc, précisément, ce qui est hors de notre portée, qui ne dépend pas de nous, c'est les parents, les frères, les enfants, tout ce qui est famille, précisément. Et plus largement, tous les membres de la communauté ou de la société dans laquelle on vit. Donc, ce qui est hors de notre portée, alors là aussi, attention à ne pas faire de faux sens, c'est tout ce qui relève de la politique. Le pouvoir, les charges, les offices, si vous voulez, politiques, les fonctions politiques, les dignités, la Légion d'honneur, par exemple, les palmes académiques. Et dernier point, ce qui est hors de notre portée, c'est encore plus largement, tout ce qui est de l'ordre du cosmos. Tout ce qui vient du cosmos. Donc, par exemple, l'astrophysique. Alors, entendez-moi bien, le fait que tout ceci soit en dehors de notre portée ne signifie pas qu'il n'y ait rien à en faire. Hein? Par exemple, ça serait inconséquent de dire que les stoïciens, c'est du coup un individualisme égocentrique. On va le développer, mais ça, c'est un contresens qu'il faut évacuer d'emblée. C'est-à-dire que clairement, cette conversion vers l'âme, vers l'exercice spirituel, n'est pas un repli sur soi individualiste, égoïste. Ça n'interdit pas, bien au contraire, l'engagement politique, par exemple. Et la meilleure preuve en est, c'est que, dans ce que je disais tout à l'heure, dans le stoïcisme impérial, donc dans la période de l'Empire romain, les stoïciens, certains ont pu occuper des charges politiques, ont pu être sénateurs, et ils ont tous, du fait de leur stoïcisme, été extrêmement critiques et résistants par rapport aux dérives des empereurs, qui prouvent bien qu'ils s'engageaient politiquement. Autrement, ils auraient dit bah, « je m'en fous de tout ça, je dis rien, je m'en occupe pas, c'est pas mon affaire ». Si, c'était leurs affaires. Donc, évitons, on va le préciser par la suite, mais évitons le contresens d'emblée qui fausserait complètement la perception des choses. Non, l'engagement politique et dans les choses de la société n'est pas antinomique, bien au contraire, avec le stoïcisme. De même, par exemple, on pourrait en déduire que ce qu'on appelle communément, mais qui est un terme qui est ambigu, mais là, entendez-le dans le sens faible, familier, l'altruisme, c'est-à-dire le souci des autres, n'est pas du tout antinomique avec le stoïcisme. Au contraire. Mais vous allez voir, on lira, si ce n'est aujourd'hui, du moins la prochaine fois, un petit chapitre qui est très clair sur le sujet. Quand on voit quelqu'un proche là à côté de nous qui souffre, quelle est la position à avoir, quoi. C'est pas du tout, il faut détourner le regard et s'occuper de soi. C'est pas du tout ça. La foi, si on ramène ça au système des croyances, la foi touche à la représentation. C'est de l'ordre. Donc la question qui se pose, c'est le bon usage et le bon jugement de la foi. Donc ça se pose, par exemple, par rapport aux dieux. Les stoïciens n'étaient pas athées. Ils croyaient aux dieux. Il se réfère, on va même voir un passage précisément, Zeus est une figure déterminante. C'est une figure de l'altérité. On pourrait dire, en termes non exagérés, que Zeus, Dieu, c'est le tout autre. Donc on peut admettre que Dieu a à voir d'une manière ou d'une autre avec la question de la croyance, de la foi. Bon. Quant à l'amour, l'amour c'est de l'ordre de l'affect. Donc ça renvoie au désir, à l'étage, à l'activité de l'âme, du désir. Donc on verra que ça fait partie, mais ce n'est pas pour autant que ce qui est à notre portée, c'est bien, attention, hein, ce qui est à notre portée peut être mal, d'un point de vue éthique. Mais la volonté touche c'est en ce sens-là, tu citais tout à l'heure Schopenhauer, c'est en ce sens-là que volonté, représentation, c'est une leçon stoïcienne chez Schopenhauer. Schopenhauer a été profondément influencé par le stoïcisme. C'est-à-dire qu'en gros, la volonté, elle a à voir avec la pro-aéresis, justement, c'est-à-dire ce choix, cette décision. C'est une décision, la volonté. Et la décision renvoie à l'exercice du jugement vrai, juste, à l'usage critique des représentations. Tout ça, c'est le même mouvement de l'âme, la même activité de l'âme dans le stoïcisme. La volonté, c'est une décision, fondamentalement. Donc, c'est un choix. Continuons encore un peu. Donc, cette séparation, c'est l'objet de l'apprentissage majeur. On le voit à travers déjà ce qui émerge comme question. Dans la vie quotidienne, dans les circonstances de la vie quotidienne, ne va pas toujours de soi d'exercer cette séparation, de discriminer ce qui dépend de soi ou ce qui ne dépend pas de soi, de la séparation et la non-séparation. Donc, apprendre à séparer de cette façon les choses du monde, ce que l'on appelle en philosophie les étangs, c'est-à-dire ce qui est les choses du monde, les étangs, être ce qui est. C'est l'enjeu, donc, de la païdéia, l'enjeu de cette éducation philosophique. Alors, ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Cette séparation, c'est ce qui garantit le fait que l'on va ressentir, penser, agir, vivre en accord avec la nature. Donc ça, c'est un point essentiel. Il faut avoir en tête, alors vous allez me dire, ça rejoint le bouddhisme. Il faut avoir en tête que l'homme... C'est en sens-là que ça ne peut pas être un individualisme. Le stoïcisme, la morale stoïcienne, d'une certaine manière, invente dans l'Antiquité la notion de sujet individuel et du sujet libre. C'est la pro-hérésis, justement. Cette capacité de maîtriser ses représentations, ses impulsions, etc. Donc, c'est une invention du sujet libre. D'une certaine manière... n'est pas exagéré de dire que c'est une invention du moi individuel. Mais, pas au sens de l'individualisme économique que notre culture contemporaine connaît. C'est qu'en clair, ce sujet individuel séparé, il ne faut pas pour autant l'entendre comme un individualisme égocentrique. Il faut entendre que notre âme, qui est par excellence le cœur du moi, si j'ose dire, notre âme, elle appartient à un tout. C'est pas un atome isolé. Elle est solidaire du tout cosmique. Elle est solidaire du cosmos. Ou ce qu'on peut appeler la nature, si vous voulez. L'âme n'est pas séparée de la nature. Et donc, l'enjeu de l'exercice spirituel, et qui passe par apprendre à séparer ce qui est à notre portée de ce qui n'est pas, l'enjeu, ça va être de vivre conformément au cosmos, conformément à la nature. Et c'est quand il y a une dissonance, précisément, un hiatus entre nos façons de réagir, de sentir, de penser, d'agir avec la nature, c'est quand il y a une dissonance que l'on va être malheureux, qu'on va être mal, qu'on n'atteindra pas l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Ça, c'est une dimension essentielle. C'est-à-dire qu'en clair, notre âme, c'est d'une certaine manière une parcelle du tout cosmique. Ce n'est pas séparable. Ce n'est pas du tout séparable. ce que la modernité a voulu complètement dissocier. Ne pas obéir, enfin ne pas être conforme dans son mode de vie aux règles de la physis, de la... Ah, je rappelle qu'en grec, la nature, c'est physis, qui a donné le mot physique. C'est précisément être dans le hiatus, la dissonance. Donc, effectivement, on peut... au bout du compte, cette séparation, cet apprentissage est profondément éthique, parce que savoir différencier ce qui est à notre portée et pas à notre portée, ce qui est intérieur et où on a une maîtrise et ce qui nous est dans l'extériorité et sur lequel on n'a pas de maîtrise, cette paideia, cet apprentissage, cette progression, c'est ce qui va permettre de savoir se situer par rapport au bien ou au mal. Autrement dit, c'est là qu'il y a une dimension fondamentalement éthique qu'il faut comprendre. Le bien et le mal, ce n'est pas des objets extérieurs. Ça n'appartient pas à ce qui est hors de notre portée. Là aussi, malentendu, trop fréquent. Le bien et le mal, il n'y a pas des objets extérieurs à nous qui sont bien ou des objets extérieurs à nous qui signifient le mal. De ce point de vue-là, le cosmos, la nature, c'est ni bien ni mal. Ça est. C'est. Il n'y a pas de jugement et surtout, il n'y a pas de morale à ce niveau-là. Ça est. C'est. C'est. On ne va pas dire que, je ne sais pas moi, c'est pas parce qu'on n'aime pas une pomme de terre que c'est mal. Ce qu'on n'aime pas, ce n'est pas la pomme de terre, c'est le goût. Mais la pomme de terre, elle n'est pas mal. La preuve, c'est qu'il y en a qui peuvent aimer la pomme de terre. Donc, le bien et le mal touchent à l'acte de séparation, à ce travail de distinction, de séparation, c'est-à-dire touche à ce qui est dans notre intériorité, à nos jugements et représentations, et au bon usage. Donc ce qui va être mal, introduire des distorsions par rapport à la nature, c'est nos mauvaises représentations, nos mauvais jugements. Fondamentalement, le mal est là. Et ce qui va être de l'ordre du bien, c'est pas les objets sur lesquels on porte nos représentations. Ce qui va être de l'ordre du bien, c'est les représentations justes, vraies, exactes, qui sont donc en conformité avec le cosmos. Alors, ajoutons ceci pour éclairer d'un petit pas, mais on va y revenir plus profondément. Cette correspondance entre la nature, le cosmos, ses lois, et ce qui est de l'ordre du bien et la nécessité de se conformer à cela, c'est que c'est régi par le logos, la raison. Le cosmos obéit à un ordre qui est régi par une loi, qui est la raison. La raison est, alors c'est clair, la raison est universelle. Et l'âme humaine a cette capacité dans sa partie supérieure, où c'est sa partie où s'exerce l'activité de jugement et de représentation, elle a la capacité à participer du logos, de la raison. Conséquence en termes d'apprentissage, il y a un lien entre la logique et l'éthique. La logique, c'est le bon raisonnement, si vous voulez. C'est cette activité de l'âme au bon raisonnement, à la bonne discrimination, aux bonnes séparations, etc., qui va garantir des représentations justes et un bon usage des représentations. La visée de l'exercice de la pro-hérésis, c'est une visée de justice, de justesse, d'exactitude. C'est déterminer le bien, l'utile, le juste, en conformité avec le cosmos. Une fois, c'est probablement ce que la pensée moderne a oublié et que l'on... Alors, tu parlais de l'écologie, mais que l'on est en train de retrouver par rapport au constat de la dégradation de l'environnement naturel, cosmique, dans lequel l'humain vit. Et qui nous rappelle que les choses ne sont pas séparées. C'est pareil. Alors, cette réflexion encore sur ce qui est de l'ordre de l'extériorité, je l'ai évoqué, mais j'y reviens plus profondément. En fait, il faut entendre que ce qui n'est pas à notre portée et qui est nommé étranger, c'est fondamentalement ça à voir avec ce qui est de l'ordre de l'altérité, du tout autre, de ce qui nous échappe. Autrement dit, ça a à voir aussi avec ce que Lacan appelle le réel. Le réel, qui n'est pas entendre dans le sens pragmatique de la réalité, hein, ce qu'on confond souvent. Le réel, c'est précisément ça. Le réel, c'est ce qui n'est pas à notre portée. C'est ce qui est de l'ordre de cette altérité. Donc le réel, c'est aussi bien la maladie, la souffrance, la mort, que autrui. Et l'on retrouve là la pensée contemporaine d'un Emmanuel Lévinas, par exemple, qui a des très belles pages justement sur le féminin et le visage. Je crois que, alors, ça se pose peut-être pas en termes de tolérance, mais si, d'une certaine manière, oui. Parce qu'on va le voir après, ce qui n'est pas à notre portée, il faut apprendre à l'accepter. Donc on peut dire qu'il y a un lien entre acceptation et tolérance. Je pense que l'on entend par tolérance, parce que c'est un mot qui est devenu extrêmement chargé. C'est un mot qui est devenu très chargé, tolérance. Tolérer étymologiquement, ça veut dire en fait supporter. Donc supporter, c'est accepter. Quoi. C'est un exercice où on apprend à accepter, supporter. Éviter, mais on approfondira, aussi un autre contresens. La question de la responsabilité et de la responsabilité éthique est présente dans le stoïcisme. Et en effet, tout ce qui est à notre portée nous requiert une responsabilité incessible, comme dit Lévinas. Une responsabilité accessible, c'est-à-dire une responsabilité qu'on ne peut pas troquer, céder, vendre, refiler. Parce que les représentations et les jugements qui déterminent nos désirs et notre action, au bout du compte, ça ne dépend que de soi. C'est de l'ordre de ses propres décisions, sa propre activité. Ce qui est important à partir de là, c'est que on peut dire à partir du stoïcisme, ce n'est pas un terme, une notion philosophique antique, mais si on transpose, on peut conclure que l'aliénation, la notion d'aliénation n'a pas de place. Et n'est pas une excuse.
L'anarchie aurait plus de place ?
Ah non, non, non. Non, parce que précisément, l'anarchie, c'est l'absence d'un arché, c'est-à-dire d'un principe. Alors, là, clairement, on dit que le monde est commandé par un principe, ne serait-ce que la raison comme arché, comme principe premier. C'est un premier principe. Donc, ça ne peut pas être de l'ordre de l'anarchie.
On obéit qu'à son propre jugement.
La responsabilité, on est responsable de la responsabilité. On le verra, c'est un antidépresseur. C'est un antidépresseur profondément. Notamment parce que par rapport à nos préoccupations contemporaines, le stoïcisme, c'est aussi les exercices spirituels du stoïcisme, c'est aussi une voie pour vaincre l'angoisse ou pour traiter la question de l'angoisse. De la mort, mais l'angoisse. Ce n'est pas une excuse, c'est où ça n'évacue pas sa responsabilité. Je veux dire par là. J'ajouterai encore ceci, pour éviter les contresens, que, on approfondira, mais je pose d'emblée pour éviter les fausses pistes qui feraient obstacle. Cette pensée stoïcienne, contrairement aux apparences, n'est pas du tout antinomique avec une liberté, l'affirmation d'une liberté fondamentale du sujet humain. Au contraire, ça ne va pas de soi. On dit pourquoi ? Parce que par rapport à ce qui est hors de notre portée, le stoïcien va dire qu'il faut l'accepter. Des événements fâcheux qui nous arrivent, il faut s'apprendre à les accepter. Par exemple, je reviendrai là-dessus, la révolte n'est pas une catégorie stoïcienne. Et c'est, j'ai beaucoup réfléchi à cela parce que vous le savez peut-être, issu de nos engagements passés, il y a eu cette pensée qui a fait le titre d'un livre de dialogue entre Sartre et Daniel Lévy, Philippe Gavé aussi, mais qui s'appelait « On a raison de se révolter ». C'est une erreur tragique. On n'a pas raison de se révolter. Parce que la révolte, c'est la mort. On y reviendra. La révolte, c'est la mort. Et le stoïcisme le montre profondément. On pourrait tirer de cela, là aussi, attention, on pourrait tirer de cela, nous modernes, nos oreilles modernes surtout, ben alors c'est qu'on est dans la résignation et qu'on est dans la fatalité et qu'on est dans la non-liberté, on est esclave. Précisément, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il faut situer sa liberté, sa capacité d'agir, sa capacité de désir, son impulsion, là où ça marche. Alors que l'homme moderne investit cette liberté là où ça ne marche pas. Donc il s'épuise. D'où l'angoisse et la dépression. Je suis désolé.
Erreur de jugement.
Erreur de jugement. Erreur de jugement. On va en rester là, parce que là, je ne peux pas engager. Mais là, ce qui est important, c'est de poser les termes de choses en évitant d'emblée de s'engouffrer dans tous les contresens. Donc avoir en tête que ça a à voir avec la liberté, que ça a à voir avec la responsabilité et avec le sujet individuel, que ça n'a pas à voir avec l'égoïsme. Pour que ça soit clair, alors d'un point de vue politique, c'est Jean-Claude Milner qui l'a très bien dit. La révolte, c'est l'opposé de la révolution. Simplement, la révolution, c'est l'optimum d'action, alors on pourrait dire de révolte, allié à l'optimum de pensée, au plus grand degré d'intensité de la pensée. C'est-à-dire que le problème de la révolte, c'est que c'est de l'ordre purement de l'affect. C'est-à-dire de l'aveugle. Alors que la révolution, si on prend au sérieux la notion de révolution, après on peut... pas prendre au sérieux la question de la révolution, peu importe. Mais au moins cela, par rapport, ça n'interdit pas la révolution, ça n'interdit pas la résistance. Encore une fois, la preuve, les stoïciens ont été peut-être ceux qui ont le plus courageusement résisté, les plus résistants au pouvoir despotique des empereurs. Donc qu'on ne fasse pas dire aux stoïciens le contraire de ce qu'ils disent, et surtout de ce qu'ils font. C'est-à-dire que la révolution, c'est la pensée optimale, la plus aiguë, la plus affûtée, liée à ce qui nous révolterait, possiblement. Mais ce n'est pas la révolte.